Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 17 décembre 2018. La campagne électorale en RDC. Tension à Kinshasa. 3 morts ce week-end dans le Kasaï lors du passage de Tshisekedi. Ramazani Shadari parcourt l'est du pays et Fayulu, la province du Bandundu. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a rencontré Emmanuel Macron à Paris dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. J-2 pour le second tour de la présidentielle malgache avec un duel Ravalomanane-Razuel mercredi. La coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire a remporté Grand Bassam mais perdu Port-Boué lors des élections municipales de dimanche. La Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. Du matériel électoral en provenance d'Afrique du Sud est en cours d'acheminement vers la RDC à 6 jours des élections, a indiqué la commission électorale. La campagne se poursuit avec des violences signalées dans le Kasaï. Bagassi Koura nous en dit plus.
Au moins une personne a été tuée, plus de 80 blessés dans des heurts entre des partisans du pouvoir et ceux de l'opposition dimanche à Chikapa dans le Kasaï. Les heurts ont éclaté entre des partisans de Félix Tshisekedi et ceux de l'ex-ministre de l'Enseignement Makere Mwangu, candidat de la majorité aux législatives. Les avions des deux hommes s'étaient posés à quelques heures d'écart à l'aéroport de Chikapa. D'autres sources font état de 2 morts. De son côté, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de la coalition au pouvoir, tente de convaincre les électeurs dans l'est du pays. Par ailleurs, du matériel électoral en provenance d'Afrique du Sud est acheminé vers la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun retard, il s'agit de matériel sensible et le calendrier avait prévu cette activité pendant cette période, a déclaré Jean-Baptiste Itipo, un porte-parole de la CENI. Corneille Nanga, président de la CENI, était à Johannesburg pour superviser l'envoi de ses fiches destinées au bureau de vote. Le Congo a une superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés et ne compte que 3400 kilomètres de routes bitumées pour déployer tout ce matériel électoral dans quelques 80 000 bureaux de vote.
La coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire a remporté Grand Bassam, mais perdu Port-Boué lors des élections municipales partielles de dimanche, marquées par des violences dans les deux villes, selon les résultats officiels proclamés lundi. Les deux communes présentent d'importants projets de développement, notamment dans le domaine immobilier. La France va livrer en 2019 au Burkina Faso 34 pick-up armés pour renforcer la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a signé cet accord après un entretien avec la ministre de la Défense Florence Parly. Monsieur Kaboré a ensuite rencontré à l'Élysée son homologue Emmanuel Macron, qui a assuré que la France resterait engagée au Sahel jusqu'à ce que la victoire soit complète. Plus de 10 millions de Malgaches sont appelés à élire leur président mercredi lors d'un second tour entre Marc Ravalomanane et Hans Radzuel. Les deux candidats ont eu un face-à-face dans un débat télévisé hier. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'échange entre les deux frères ennemis a été acrimonieux. Marc Ravalomanane a traité son rival de destructeur et dénoncé ce qu'il qualifie de provocation et sabotage. « Il est temps pour vous de prendre votre retraite et aller traire vos vaches », a rétorqué Hans Radzuel. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup pendant 2 semaines d'une campagne marquée par leur rancune personnelle, s'accusant mutuellement de corruption et d'incompétence. Ils ont sillonné le pays pour tenter de convaincre les nombreux indécis. Dans le sud, en pleine crise alimentaire, des partisans d'Ange Radjoel ont offert à la population du riz et de l'huile à prix réduit. Samedi, Marc Ravalomanane a dévoilé le kit qu'il va offrir à tous les écoliers du pays en cas de victoire. Élu chef de l'État en 2002, M. Ravalomanane a été contraint à la démission 7 ans plus tard par une série de manifestations soutenues par M. Radjoel. À l'époque maire de la capitale, Radjoel a été installé par l'armée à la tête de la transition. Les deux rivaux ont été interdits de se présenter à l'élection de 2013 dans le cadre d'un accord de paix pour mettre fin aux crises à répétition. Pour chacun des deux candidats, le second tour mercredi sera l'occasion de prendre sa revanche.
La garde civile espagnole a annoncé avoir arrêté 7 cerveaux d'un réseau de passeurs ayant fait entrer en Espagne environ 600 migrants marocains en 2018. Les candidats à l'immigration devaient payer au moins 2500 euros, élevant à près de 2 millions les gains touchés dans l'année par l'organisation criminelle.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Arabie Saoudite a condamné le vote de résolution du Sénat américain hostile au régime de Riyad. L'une porte sur le conflit au Yémen et l'autre sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul. Le point avec Idriss Fall.
Le Royaume d'Arabie Saoudite rejette la position exprimée par le Sénat des États-Unis qui se fonde sur des affirmations et allégations sans preuve avec des ingérences flagrantes dans les affaires internes au Royaume, a déclaré dans un communiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères. Jeudi dernier, des sénateurs démocrates et quelques républicains ont adopté deux résolutions. L'une appelle le président Donald Trump à retirer les forces armées américaines des hostilités au Yémen et l'autre estime que le prince héritier Mohammed Ben Salman est responsable du meurtre de Jamal Khashoggi, tué dans le consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre. Riyad affirme que ce meurtre a été commis sans l'accord de ses plus hauts dirigeants. Cependant, les autorités saoudiennes ont rejeté une demande d'extradition turque des suspects, dont deux proches du prince héritier. Ces deux résolutions ont seulement une portée symbolique. Elles ne seront pas débattues à la Chambre des représentants au moins jusqu'à l'investiture des nouveaux parlementaires en janvier. Du reste, le président Trump a simplement décidé de les ignorer.
Au Royaume-Uni, Theresa May rejette catégoriquement les appels pour un second référendum sur le Brexit, perçu comme une possible solution à l'impasse politique découlant de l'hostilité envers l'accord de divorce conclu avec Bruxelles. Le point avec Nani Talani.
Ne rompons pas la confiance du peuple britannique en essayant d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit qui entraînerait des dégâts irréparables, a dit la première ministre britannique dans une déclaration aux députés à la Chambre des communes. Theresa May avait déjà repoussé à janvier le vote sur l'accord de divorce, initialement prévu le 11 décembre. Elle a précisé que ce vote va se dérouler dans la troisième semaine entre les 14 et 20 janvier. La dirigeante conservatrice est ressortie affaiblie d'un vote de confiance au sein de son propre parti conservateur. Dans un référendum en 2016, le Royaume-Uni s'était prononcé pour une sortie de l'Union européenne. Le Brexit doit se concrétiser le 29 mars, mais l'accord de divorce conclu avec Bruxelles peine à convaincre les députés britanniques. Lundi, Theresa May a répété que des clarifications supplémentaires de la part de Bruxelles sont possibles. Mais Margaritis Schinas, porte-parole de la Commission européenne, a répondu que le Conseil européen a déjà fourni toutes les clarifications et aucune nouvelle réunion n'est prévue avec le Royaume-Uni.
Le président américain Donald Trump a appelé la Réserve fédérale à ne pas relever les taux d'intérêt lors de sa réunion prévue mardi et mercredi. C'est incroyable qu'avec un dollar très fort et virtuellement aucune inflation, le monde qui explose autour de nous, Paris qui brûle et la Chine sur la pente descendante, la Fed puisse seulement penser à une nouvelle hausse de taux d'intérêt, a-t-il dit sur Twitter. Les marchés s'attendent à ce que le comité monétaire de la Fed relève mercredi les taux d'intérêt pour la quatrième fois cette année. La police portugaise va mettre en place un dispositif de sécurité adéquat pour faire face vendredi à une première journée de mobilisation inspirée par les gilets jaunes français, précisant s'attendre à une forte mobilisation. Au Portugal, il est illégal de couper la circulation routière et la police ne le permettra pas, a-t-elle prévenu. En France, un mois après le début du mouvement des gilets jaunes, de nombreuses routes restent bloquées par les manifestants. Et dans le nord-est de l'Inde, l'espoir s'amenuise pour au moins 13 mineurs bloqués sous terre depuis jeudi après une inondation dans une mine de charbon illégale. Les secouristes pompent l'eau du site depuis l'accident survenu dans l'état de Meghalaya, mais aucun contact n'a pu être établi avec les mineurs, a indiqué la police. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en service le premier barrage hydro-agricole gonflable d'Afrique de l'Ouest situé à Mbayakro dans le centre du pays pour un coût de 14 milliards de francs CFA. Selon l'agence Ecofin, ce projet permettra de produire additionnellement 4200 tonnes de paddy, c'est-à-dire le riz non traité. Il donnera aussi un revenu brut de 675 millions de francs CFA par an, sans mentionner des milliers d'emplois qui seront générés. Ce projet est cofinancé par la Banque Ouest-Africaine de Développement et le Fonds Coétien. La société sud-africaine Aspers investit 540 millions de dollars dans une start-up indienne de technologie éducative Bijou. C'est une application d'apprentissage qui propose des outils aux élèves. Naspers envisage à faire de gros investissements en faveur de son projet. Fondé il y a plus de 100 ans, Naspers est passé d'éditeur de journaux à un empire de 87 milliards de dollars grâce à sa participation d'un tiers dans la technologie. Terminons avec ce juge italien qui a déclaré que les groupes pétroliers Eni et Shell étaient pleinement conscients que leur achat d'un gisement pétrolifère au Nigeria en 2011 entraînerait une corruption des politiciens et des responsables nigérians qui ont joué un rôle lorsqu'Eni et Shell ont acheté un champ offshore pour environ 1,3 milliard de dollars, accompagné du plus gros scandale de corruption. Environ 1,1 milliard de dollars ont été siphonnés aux agents et aux intermédiaires.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On connaît les affiches des huitièmes de finale en Ligue des Champions.
Oui, le triple tenant du titre, le Real Madrid, a été plutôt épargné par le tirage au sort des huitièmes de finale. Les Madrilènes feront face aux Néerlandais de l'Ajax Amsterdam en février. Liverpool de Sadio Mané et Mo Salah, finaliste, aura fort à faire contre le Bayern Munich. Dans les autres huitièmes, on aura Schalke 04, Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez. Gros match en vue entre l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey et la Juventus Turin de Ronaldo et du Marocain Mehdi Benassia. Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly fera face au Paris Saint-Germain du Camerounais Maxime Choupo-Moting. Man U ne va pas bien en championnat, mais l'entraîneur adjoint du club parisien appelle à la prudence. Écoutons Zoumana Camara.
C'est vrai que pas mal de gens nous voient favoris parce que c'est une équipe qui va pas très bien en championnat cette saison. Mais je le répète encore une fois, le visage que peuvent montrer les équipes aujourd'hui et ce qu'elles montreront en février et mars, ça peut être autre chose. C'est une équipe qui a de fortes individualités. Donc il va falloir rester très vigilant. On aura le temps de repenser à ce match et de se préparer.
À suivre aussi Tottenham, Borussia Dortmund. Mission compliquée pour Lyon du Burkinabé Bertrand Traoré et de l'Ivoirien Maxwell Cornet face à la montagne FC Barcelone et AS Roma FC Porto. Les rencontres allées auront lieu mi-février et les matchs retour début mars.
Les Londoniens épargnés en Ligue Europa.
Arsenal et Chelsea, les deux clubs londoniens ont été vernis au tirage au sort avec respectivement les Biélorusses de Bate Borisov et les Suédois de Malmö pour adversaires. La principale affiche mettra aux prises la Lazio Rome et le FC Séville, quintuple vainqueur de la compétition. Autre club italien, le Napoli de Carlo Ancelotti, reversé en Ligue Europa, a eu plus de chance avec Zurich. Le Shakhtar Donetsk a hérité de Francfort. Rennes, dernier représentant français en Ligue Europa, affrontera les Espagnols du Betis Séville. Il y aura de la ferveur dans la double confrontation entre les Turcs de Galatasaray et les Portugais du Benfica. Le Celtic devra quant à lui battre Valence pour accéder au huitième de finale.
NBA, championnat de basket nord-américain, Denver remporte le duel des leaders contre Toronto.
Emmené par un Jamal Murray intenable, 15 points dans le dernier quart-temps, Denver est sorti vainqueur du duel des leaders de conférence face à Toronto, 95-86 à l'ouest. À Cleveland, les Cavaliers se sont inclinés contre les Sixers de Philadelphie du Camerounais Joel Embiid, 128-105. Le Camerounais a inscrit 24 points. Les Los Angeles Lakers ont été sèchement battus par les Washington Wizards, 128-110, grâce notamment aux 40,14 passes de John Wall. La soirée a été catastrophique pour LeBron James, qui a affiché son plus petit total de la saison, 13 points.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la campagne électorale amorce son dernier virage. Elle se clôture officiellement vendredi 21 décembre à minuit. Les favoris à la présidentielle annoncent déjà de grands rassemblements à Kinshasa. Face au risque d'affrontement, la police invite la population à prendre des dispositions pour sécuriser chacun des camps politiques. Voici un reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après avoir drainé des foules en province, Martin Fayulu, Emmanuel Ramazani Shadari et Félix Tshisekedi annoncent des grands rassemblements populaires à Kinshasa pour clôturer leur campagne électorale. Le stade des Martyrs, le stade Père Raphaël ou encore la place Triomphale sont des endroits ciblés par ces candidats à la présidentielle pour mesurer ou mieux démontrer leur popularité dans la capitale avant les élections du 23 décembre courant. Mais face à d'éventuels débordements et affrontements, des appels à la paix et à la tolérance sont lancés. Jean Baudouin Mayo, le secrétaire général de l'UNC de Vital Kamerhe, est l'un des soutiens de la candidature de Félix Tshisekedi.
La campagne de la coalition CASH, Tshisekedi, Kamerhe, se passe en toute quiétude, en toute sérénité. Les forces de l'ordre sont là aux partisans de CASH de continuer à être patriotes. Ce n'est pas un moment de combat. Nous sommes tous fils et fils de ces mêmes pays et nous devons le protéger.
À la coalition Lamouka, qui soutient la candidature de Martin Fayulu, on lance également un message de paix et on interpelle la police. Christophe Lutundula.
C'est d'abord un message de paix. Nous ne sommes pas des conflictuels, nous sommes des non-violents, nous sommes des démocrates. Nous interpellons la conscience à la fois civique et morale même de tous les compétiteurs pour qu'on ne tienne pas des discours de violence, de haine, allant aux urnes de 23, en disant qu'on pose un acte citoyen qui va déterminer l'avenir du pays. Et à ceux qui ont la responsabilité d'organiser les élections, nous leur demandons, faut toujours assurer les Congolais, éviter tout ce qui peut énerver.
Le même appel est relayé par André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle et cadre du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir.
Ceux qui vont en meeting, qu'ils disent à leurs militants d'aller poursuivre le meeting et non pour perturber l'ordre public. En tout cas, en ce qui nous concerne, non-militants, ce sont des légalistes qui suivent les consignes des autorités civiles et militaires et ils suivent également les consignes des autorités politiques que nous sommes.
La police, de son côté, affirme par l'entremise de son porte-parole, Piero Mwanamputu, être en train de prendre des dispositions pour sécuriser au même titre toutes les parties jusqu'à la fin de cette campagne électorale. Dans les rues de Kinshasa, les personnes interrogées espèrent pour leur part vivre une bonne ambiance de fin de campagne et demandent à la police de faire son travail en toute impartialité.
C'est une bonne guerre d'abord, je peux dire. Et surtout que c'est les derniers jours. Nous voulons voir tous ces leaders-là à Kinshasa, chacun dans son coin. Comme ça, on va peut-être mettre fin au débat des plaies par rapport à Kinshasa. En tout cas, moi, je pense que c'est lui qui fera les plaies à Kinshasa, c'est lui le candidat président de la République. Et la police est là pour sécuriser tout le monde, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir.
Il faudra prendre des dispositions. Je tiens à rappeler à la police nationale congolaise qui doit veiller sur ces meetings pour éviter également de dérapages.
Déjà trois candidats majeurs à la présidentielle. Vous avez Fachi et son directeur de campagne qui sont populaires à Kinshasa, Fayulu également et Shadari aussi. Alors à mon avis ça peut déjà dégénérer vu que ce serait un moment crucial à la fin de la campagne vu la tension politique qu'il y a.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Le candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary fait actuellement campagne dans l'est de la RDC, tandis que Martin Fayoulou de la coalition Lamouka parcourt la province du Bandundu. Le week-end a notamment été marqué par des violences à l'arrivée de Félix Tshisekedi à Tshikapa, dans le Grand Kassai, où il y a eu 3 morts. Mais le passage de l'opposant à Lubumbashi s'est déroulé sans incident. Le point avec notre correspondant Narval Mabila sur la visite du candidat Tshisekedi à Lubumbashi.
Samedi 15 décembre, de nombreux militants de la coalition Cap pour les changements, billets tout semblants pour la plupart, avec un balai à la main, ont répondu très présents à l'accueil de Félix Tshisekedi et sa suite, qui ont atterri à l'aéroport international de Lalouano à 16h10, heure locale. Le cortège de Félix Tshisekedi a pris plus de 4 heures du temps pour atteindre le centre-ville, au Square Forest, lié prévu pour le meeting, où il s'est adressé à la population vers 20h du soir. Un accueil sans incident. Un louchois est au micro de VO Afrique.
Nous félicitons toutes les deux parties, disons la composante politique qui est le parti politique, également la composante sécuritaire. Par là, nous parlons de la police, parce que le début de cette manifestation, donc disons de l'aéroport jusqu'au lieu de meeting, jusqu'à la fin, aucun incident n'avait été enregistré. Donc, nous félicitons les deux parties de leur savoir-faire.
Dimanche dans la matinée, point de presse de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Toutes les questions sont répondues. Voici les quelques grandes lignes sélectionnées par VO Afrique.
Il reste une semaine, mais nous allons aller très vite. Parce qu'en réalité, il nous reste la partie ouest de la République. Principalement le Bakongo, le Bandundu, je prends et l'Équateur. C'est là qu'on n'a pas encore mis les pieds, mais ça va se faire dans la semaine qui reste. Nous aurons le temps de faire, peut-être pas partir, passer partout. Pour nous, nous avons déjà parti gagner. Maintenant, nous allons voir comment ça va se passer à l'ouest. En tout cas, l'ouest, ce sera plutôt la cerise sur le gâteau. Je l'ai toujours dit, le rapprochement est toujours possible. Ces amis-là, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito et j'en passe, je dis bien, ces amis-là restent des opposants comme nous. Ils n'ont pas le monopole de l'opposition, ils n'ont pas à nous le refuser à nous. En véhiculant des faux messages pour nous diaboliser inutilement dans la population.
Le tout dernier virage de la campagne vient d'être entamé. Lubumbashi, Narval Mabila pour VO Afrique.
En Centrafrique, les réactions continuent quelques jours après l'arrestation par les autorités françaises de Patrice Édouard Ngaïsona, un ancien chef de milice anti-Balaka. Il a été arrêté suite à un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale. Par conséquent, les anti-Balaka ont décidé de se retirer du gouvernement, du processus de paix initié par l'Union africaine et du programme de désarmement en cours. Notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila, nous en dit plus.
L'arrestation de Patrice Édouard Ngaïsona le 12 décembre dernier à Paris a provoqué la colère des miliciens anti-Balaka à Bangui comme à l'intérieur du pays. Les deux principaux mouvements, l'aile Ngaïsona et celle de Mokom, annoncent leur retrait de tous les processus de paix en cours. Richard Soumalikré, porte-parole de la faction Mokom.
Les ministres qui nous représentent au sein du gouvernement, ils vont se retirer, et chose qui est faite. Et deuxièmement, nous demandons le retrait de nos membres dans l'institution qui consiste alors à piloter les actions menant au DDRR. Et ils se sont retirés déjà. Enfin, notre retrait pur et simple alors du processus du panel de l'Union africaine et l'initiative africaine.
Hommes politiques, société civile et centrafricains lambda, chacun apprécie à sa manière cette arrestation. Les uns s'inquiètent et se demandent est-il le moment opportun pour mettre la main sur un leader aussi influent d'un groupe encore armé et favorable au processus de la paix. D'autres cependant dénoncent l'acharnement de la justice internationale contre un seul camp. L'avocat Silvio Mandendiapou, coordonnateur de la coalition pour la Cour pénale spéciale, une organisation de la société civile.
Nous de la société civile, nous disions il est important également d'arrêter aussi les leaders, parce qu'on a vu Rombo qui était arrêté de groupe anti-Balaka et de Ngaïsona. Il faut pas seulement poursuivre l'autre parti, il faut poursuivre les deux, parce que nous souhaiterons que Aline Daras de l'UPC soit aussi arrêté, Noureddine Adam soit aussi arrêté, les Abdoulaye Hissène, eux aussi se sont arrêtés. Ils sont nombreux. Et même Sidiki et Némeris au niveau de kilomètre 5, ces gens qui ont commis des exactions sur le peuple centrafricain, c'est important aussi de les arrêter parce que pour ne pas qu'il y ait deux poids, deux mesures.
Dans la foulée des réactions, une autre branche anti-Balaka composée de quelques leaders a dénoncé dimanche 16 décembre un complot de l'extérieur visant à déstabiliser la République centrafricaine. Ils appellent les centrafricains au calme et à la vigilance. Thierry Lébéné, alias 12 puissance, membre de cette branche anti-Balaka.
Le cas des deux leaders du mouvement anti-Balaka, notamment le député Alfred Rambo Yekatom et l'ancien coordonnateur général des anti-Balaka, Patrice Edouard Ngaïsuna, qui vient d'être arrêté à Paris le mercredi dernier, en témoigne bien le complot qui se prépare depuis l'extérieur dans le seul but de déstabiliser les institutions légitimes établies.
Selon le bureau de la Cour pénale internationale à Bangui, au stade actuel, Patrice Edouard Ngaïsuna est encore un suspect et non un accusé. Gervais Boudagaï, chargé de communication.
Je voudrais préciser qu'en ce moment, M. Edouard Ngaïsuna est considéré comme un suspect. Pour le moment, on l'appelle suspect. Il n'est pas accusé parce qu'il faudrait passer par l'épreuve ou bien la procédure de l'audience de confirmation des charges pour qu'il devienne un accusé devant la Cour pénale internationale.
De leur côté, les autorités centrafricaines se réservent encore de tout commentaire sur cette arrestation intervenue quelques semaines après le transfert de Alfred Yekatom Rambo, un autre chef anti-Balaka à la Cour pénale internationale. Freeman Sipila Bangui pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le gouvernement ivoirien réclame le retour d'environ 20 000 objets d'art, dont de nombreuses pièces sorties illégalement du pays pendant des années. La Côte d'Ivoire compte d'ailleurs construire une dizaine de musées pour recevoir ces biens culturels. Des précisions avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres pays du continent dont le Bénin et le Sénégal, demande que lui soient restitués des milliers d'œuvres d'art pillées notamment pendant la période coloniale. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, il s'agit d'environ 20 000 œuvres d'art.
À l'instar de nombreux pays africains spoliés de leurs biens culturels ancestraux, notre pays compte des milliers d'œuvres irrégulièrement détenues à l'extérieur. Au moins 50 musées en Europe et en Amérique, en dehors des collections privées, détiennent dans leurs collections respectives environ 20 000 objets d'art d'origine ivoirienne estimés à 6 000 milliards de francs CFA. Dans le cadre du processus de retour de ces biens culturels et une première liste de 148 objets d'art à restituer a été transmise.
Au nombre des objets dont la restitution est prioritaire pour la Côte d'Ivoire, figure un tambour actuellement conservé au musée du Quai Branly à Paris. Sylvie Memel-Cassi, directrice du musée des civilisations des Côtes d'Ivoire.
Nous avons, un objet culte en ce moment qui a toujours été réclamé par le peuple tchaman, les ivriers de Côte d'Ivoire, et c'est le Didi Ayokoué, ce tambour parleur sacré qui est un objet de communication qui permettait à la population de l'époque, au temps colonial, de prévenir la communauté de l'arrivée ou pas du colon. Le colon n'a rien eu à faire que de prendre cet objet.
De nombreux Ivoiriens saluent également l'annonce par la France de la restitution de ses œuvres d'art.
Je suis très bien content pour le retour des biens culturels africains. Moi, je suis du Nord. J'ai remarqué qu'il y a certaines zones du Nord, tous les biens culturels se trouvent en Europe. Mais s'il y a le retour des biens culturels, je suis très bien content. Et je remercie ceux qui sont sur la question du débat de ce problème.
Moi, je crois que c'est une belle initiative. Tout ce qui nous a été structuré, il faudrait que nous retrouvions cela et que cela nous revienne. Parce que c'est de notre droit. Il faudrait que cela nous revienne pour que nos enfants aussi connaissent la valeur de ces choses-là.
Si les œuvres d'art demandées par le gouvernement ivoirien étaient restituées à la Côte d'Ivoire, cela contribuera certainement à attirer encore plus de visiteurs au musée qui se remet progressivement des pillages consécutif à la crise post-électorale de 2010-2011. Le gouvernement annonce aussi la construction d'un grand musée d'envergure internationale et 12 musées régionaux. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Sims Loumami, à la console Chang, à la présentation Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Bienvenue à bord. Les passagers.